La question du jour, un plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans le quantique a été annoncé par le président Emmanuel Macron la semaine dernière, parmi lesquels 800 millions seront consacrés aux seuls ordinateurs quantiques. Avec la Chine et les États-Unis, la France voudrait ainsi s'inscrire en tête de la compétition pour ne pas rater ce saut technologique qui promet des capacités de calcul sans comparaison avec ce que nous connaissons. De leur côté, Google et IBM se disputent déjà la primeur de la suprématie quantique. Une telle course pose évidemment une question. À quoi sert un ordinateur quantique ? Bonjour Tristan Meunier.
Bonjour.
Vous êtes physicien et directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez sur la conception justement d'un ordinateur quantique. Et je vais d'abord vous demander de nous expliquer ce qu'est ce fameux ordinateur quantique.
Eh bien, un ordinateur quantique est une machine qui sert à calculer, comme un ordinateur classique. Cependant, les lois qui régissent l'ordinateur quantique sont les lois de la mécanique quantique qui ont été mises en place et découvertes au début du XXe siècle et qui servent à décrire le comportement des particules élémentaires telles que les atomes, les électrons ou les photons et comprendre effets qui n'ont pas d'équivalent dans notre monde classique. Et l'un de ces effets, en particulier, c'est qu'un atome ou un électron peut être à deux endroits à la fois. À la fois, par exemple, si vous avez une barrière à droite ou à gauche de la barrière. Et les physiciens ont essayé de comprendre ces effets et ont été amenés à contrôler de plus en plus de ces particules quantiques. Et quand vous contrôlez de plus en plus de particules quantiques, eh bien vous avez le support pour l'ordinateur quantique.
Mais alors, en quoi cette technique, qui a d'ailleurs été aussi exposée dans la dernière émission d'Étienne Klein, la conversation scientifique le week-end dernier, en quoi cette technique permet-elle justement de disposer d'un ordinateur plus rapide, Tristan Meunier?
Bien, en général, je vais utiliser une analogie ici qu'on utilise souvent, c'est l'analogie du labyrinthe. Quand vous avez un labyrinthe, vous savez que vous entrez dans un labyrinthe et vous devez chercher le chemin pour sortir. Il n'y en a qu'un. Et à chacune des intersections du labyrinthe, vous avez deux possibilités, soit d'aller à droite ou soit d'aller à gauche. Si vous augmentez le nombre d'intersections, vous allez augmenter le nombre de chemins possibles et ça devient très compliqué pour nous parce que tout simplement on va essayer les chemins les uns après les autres et on va souvent se perdre. Par contre, avec un ordinateur quantique, vu qu'il est à la fois que les particules quantiques peuvent à la fois aller à droite et à gauche et couvrir tous les chemins en même temps, vous voyez que de cette manière-là, on va pouvoir comprendre quel est le chemin le plus rapide pour sortir plus rapidement. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans un ordinateur quantique. C'est ce qu'on appelle il y a une sorte de parallélisme qu'on appelle parallélisme quantique, qui va nous servir à calculer effectivement plus efficacement.
Et alors, j'ai presque envie de vous demander concrètement, Tristan Meunier, un ordinateur quantique, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce qui permet donc de le qualifier de quantique? Est-ce qu'à la place de la puce, on a affaire à je ne sais quoi de quantique?
Alors, effectivement, c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est tout simplement que les circuits qui le composent, cet ordinateur quantique, eh bien, c'est des circuits qui vont être gouvernés par la mécanique quantique. Ils vont avoir un aspect qui est très similaire. Nous travaillons sur des puces de silicium qui sont similaires à celles que vous pouvez trouver, eh bien, dans un téléphone portable ou dans un ordinateur. Mais on met ces puces de silicium dans des conditions extrêmes qui permettent de garder leur caractère quantique. Parce que ça a été le travail des physiciens pendant de nombreuses années de comprendre comment garder ces propriétés quantiques. Et en général, vous devez les mettre dans des cryostats. Donc, pour répondre à votre première question, à quoi ça ressemble? En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver sur les supercalculateurs dans les entreprises qu'on voit sur Internet, par exemple dans des entreprises comme Google. Et c'est des grosses machines, et elles ont en plus des supercalculateurs, elles n'ont pas besoin d'être uniquement refroidies pour évacuer la chaleur. Là, on a besoin d'aller très très bas en température, en général, pour les systèmes qui me concernent. Très basse en température, ça veut dire proche du zéro absolu.
Et alors, qu'est-ce qui se passe au zéro absolu pour les particules? Pourquoi, justement, les effets de la mécanique quantique vont-ils se percevoir à cette température-là, Tristan Meunier?
Tout simplement, il est bien connu que l'excitation thermique, les particules vont être particulièrement sensibles aux perturbations extérieures. Et ces perturbations extérieures sont, sont l'environnement. Alors nous, dans notre cas, c'est l'environnement solide, le silicium. Et on sait que fondamentalement, en baissant la température, hein, on va calmer toutes ces excitations. On va les réduire à leur expression minimale pour éviter justement de perturber le caractère quantique du système qu'on observe. Et c'est cette propriété-là qui permet de garder ce qu'on appelle la cohérence, c'est-à-dire cette propriété quantique qui nous permet de calculer plus rapidement.
Mais alors, le fait justement qu'on ait la possibilité de calculer plus rapidement à ces températures-là, ça veut dire aussi le corollaire qu'il est impossible pour l'instant d'envisager un ordinateur portable quantique.
Alors c'est toujours une question qui revient, et il faut bien comprendre que vu que les principes de l'ordinateur quantique sont différents de l'ordinateur classique, il va être très difficile d'effectivement faire tourner les algorithmes classiques, en particulier Windows ou le système d'opération d'Apple sur un ordinateur quantique. Donc il ne va pas supplanter l'ordinateur classique tel qu'on l'a à la maison. Par contre, son mode d'usage, hein, est plus celui des supercalculateurs, où vous allez avoir un supercalculateur adossé à un calculateur quantique avec des liaisons entre les deux systèmes pour pouvoir effectuer les calculs rapidement. Il est clair aujourd'hui qu'un ordinateur classique a des compétences que n'a pas l'ordinateur quantique, et il va falloir faire une espèce d'échange entre ces deux machines. Et pour l'utilisateur lambda, celui qui veut utiliser cette machine, hein, qui est couramment en calcul intensif, comme j'ai essayé de vous le dire, eh bien tout simplement, il va se connecter par Internet, accéder à ces supercalculateurs, et le supercalculateur sera à même de savoir quelle est la machine qu'il doit utiliser.
D'accord. Et alors, typiquement, on peut l'imaginer pour quel type d'application aujourd'hui ?
Alors, les applications sont diverses. Les utilisateurs de cette machine sont des utilisateurs qui sont gourmands en calcul intensif. Hein.
D'accord.
Donc, c'est le cas, par exemple, pour un nombre important d'industriels qui veulent, par exemple, élaborer des nouveaux médicaments. On est dans la période du Covid, ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là, pour élaborer des nouveaux matériaux, hein, effectivement. Alors, nous, on a souvent cet exemple, hein, en période hivernale, vous savez que la distribution d'électricité dans les foyers peut poser problème. Et pour être efficace, eh bien, effectivement, il existe des algorithmes quantiques qui peuvent rendre cette distribution plus efficace et aider EDF à éviter les coupures de courant dans les maisons.
Et alors, dernière question, Tristan Meunier, si on veut en voir un ordinateur quantique, il faut aller où ?
Alors, si vous voulez en avoir un, vous pouvez aller sur Internet pour savoir à quoi ça ressemble, ça va être une grosse machine. Il y a des ordinateurs quantiques qui sont effectivement aux États-Unis, à Google ou à Google à Santa Barbara ou à IBM au nord-est des États-Unis. De nos jours en France, IBM a fait une succursale à Montpellier, et c'est les principales places aujourd'hui où vous avez vraiment un ordinateur qui est efficace, avec des pouvoirs limités pour l'instant, puisque leur taille est limitée et les calculs qu'ils font sont pas très intéressants pour n'ont pas d'application directe pour le moment.
Merci beaucoup, Tristan Meunier. Je rappelle que vous êtes physicien et directeur de recherche au CNRS.